Très bien. Donc on va commencer le Pérek Lamed Tet. Normalement, le chapitre 38, 39, 40, c'est une seule suite. Trois chapitres qui parlent de...
38, 39, 40.
Donc Lamed Tet, Lamed Tet et même, c'est trois chapitres qui parlent de l'importance de la Kavana. Alors, donc le chapitre Lamed Tet est encore assez facile. On l'a expliqué la semaine dernière. On a expliqué comment il y avait deux styles de Kavana. Il y avait la kavana analysée et la kavana instinctive. D'accord? Bien, je vois qu'il y en a qui a révisé. T'es dedans, là.
Oh là là, je connais que ce mot-là, vous ne croyez pas que...
J'avais pas retenu mon instinctive et
analysée. Ça fait plus de deux ans qu'on fait
la kavana. Hein,
la première, trip, ça fait plus de deux ans.
La première et la deuxième.
La kavana analysée et la kavana instinctive. La kavana analysée, ça veut dire... Ça veut dire, donc, c'est la kavana que... Je vais réfléchir à quelque chose, je vais créer une kavana. Et la deuxième kavana, c'est la kavana instinctive, c'est comme les animaux. Donc on avait expliqué que c'est exactement comme la différence entre les hommes et les animaux. Quelle est la différence principale qu'il y a entre les hommes et les animaux? C'est que les hommes ont la possibilité de créer des sentiments. De créer des sentiments avec leur cerveau. Alors que les animaux, ils sont instinctifs. C'est-à-dire, ils ont quelque chose en eux, ils vont toujours agir selon leurs instincts. Donc de la même manière, en nous, on a deux types de kavana. Premier type de kavana, qui est celui qui va réfléchir, avec, en donner un exemple par exemple, se sentir, quand je me sens petit par rapport à Kadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, tellement je me sens petit par rapport à Kadosh Baruch Hu, que je veux avoir une kavana dans toutes mes mitzvot, j'ai envie de te rajouter dans les mitzvot, c'est une kavana analysée, c'est suite à une analyse. Et à part ça, on a une kavana instinctive. Alors, c'est-à-dire que je ne vais rien réfléchir, je ne vais pas réfléchir à quelque chose de particulier, mais... Je fais une mitzvah parce que je suis juif. Et on a expliqué que c'est pas du pipo, c'est quelque chose qui est vrai. Ça s'appelle une kavana instinctive. C'est-à-dire, je fais la mitzvah comme un animal a envie de manger. Voilà. C'est comme un animal, il va attaquer sa proie, pas parce qu'il a réfléchi, je vais attaquer ma proie. Parce que c'est un instinct chez lui, qu'il faut attaquer sa proie, c'est comme ça. Donc, nous aussi, on peut faire les mitzvot par instinct. C'est ce qu'on a expliqué dans le Pérek Lamed Tet. Dans le Pérek Lamed Tet, on va entrer un peu dans les complications. Chapitre 39 et chapitre 40, de ce que je me rappelle. C'est les deux chapitres les plus compliqués du Tanya.
Ah, le 39 et le 40
39 et 40.
Ah, on rentre dans le dur, ça veut dire. Surtout, il m'avait semblé qu'on en avait fait des moments durs, mais...
Non, ça c'est compliqué, non.
Surtout le 40.
Surtout le 39, début du 39.
C'est le début de la guerre, 39 et 40. C'est toujours comme ça, c'est difficile.
Je sais pas si c'est voulu, je sais pas
s'il y a un rapport. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard.
Surtout le début du 39, c'était un très compliqué. Bon. Pourquoi c'est très compliqué? Parce que l'Admor HaZaken, on a l'impression qu'il va parler dans un langage d'initié. Elle va se mettre à... On va avoir des langages de Kabbalah par-ci, par-là. On va perdre un petit peu. Des fois, on aura l'impression qu'on ne sait pas où il va en arriver. Et pour vous dire la vérité, c'est seulement...
En fait, tu as bien préparé, donc
oui.
C'est bon.
Non, j'ai préparé. Mais pour vous dire la vérité, c'est seulement une fois qu'on arrive à la fin du chapitre 40. Et on va parler de plein de notions. Mais on ne verra pas forcément le rapport. C'est seulement quand on verra à la fin du chapitre 40... que là, on verra la structure où l'Admor HaZaken voulait en arriver, que tout avait un rapport avec l'importance de la Kavana. Parce que rappelez-vous, jusqu'au chapitre 38, on a expliqué l'importance de l'acte. Après, on a commencé à expliquer l'importance de la Kavana. Seulement à la fin, on comprendra où il va en arriver l'Admor HaZaken. Bon, chapitre 38, on a compris deux styles de Kavana. Très bien, ça on a compris. Chapitre 39, ça va compliquer un petit peu. Donc, j'ai déjà commencé à travailler depuis maintenant sur un document, là, comme ça apaisera ta chaîne, dès qu'on arrivera à la fin du chapitre 40, on aura un résumé depuis le chapitre 35. On n'a pas eu de résumé encore depuis le chapitre 35.
Donc, on n'a pas d'exigence, on sait que...
Un résumé qui mettra d'un côté l'importance de l'acte, et de l'autre côté l'importance de la kavana, avec tous les éléments qu'on aura appris jusqu'à la fin du chapitre 40. Et bien. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler des malachim, des anges. Encore une fois, je vous ai prévenu, c'est-à-dire on va parler de choses qui sont a priori qui ont très peu de rapport avec la kavana, mais on va trouver le rapport. Aujourd'hui, de quoi on va commencer à parler? On va commencer à parler des anges. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur les anges? Il dit comme ça. Donc déjà, hein, une note que le Rabbi explique entre parenthèses. Le Rabbi, quand il a commenté le Tania, un des commentaires qu'il a expliqué sur le Tania, il dit que pourquoi l'Admor HaZaken ici se met à nous parler des anges? Pour nous apprendre deux choses. Premièrement, pour nous apprendre que, là on va expliquer que les anges sont comparés aux animaux. Donc pour nous apprendre que celui qui réussit à servir Dieu avec son cerveau, mais pas de manière instinctive, bah d'une certaine manière, il est plus fort que les anges. Ça pour nous montrer la force de notre travail. On a la possibilité d'être plus fort que les anges. Ça c'est premièrement. D'accord ? Et deuxièmement, pour consoler ceux qui ne sont pas capables, deuxièmement, pour consoler ceux qui ne sont pas capables de créer, d'innover, de créer un sentiment avec leur cerveau, mais qui sont simplement capables d'être de bons juifs, d'être des juifs instinctifs. Alors pour eux, on va leur dire, t'inquiète pas, t'es dans le même compte que les anges. C'est déjà pas mal.
C'est pas terrible.
Attends, bon, on va voir. On n'est pas terrible, on n'a pas commencé. Mipnei zenikraim gam ken amalachim b'shem chayim.
Je ne sais pas pourquoi parler.
C'est pour ça que les malachim, c'est pour ça, quand on dit c'est pour ça, ça veut dire quoi c'est pour ça? Ça veut dire, bah, après ce qu'on a expliqué, qu'il y a une kavana instinctive, il y a une kavana analysée, que la différence entre les hommes et les animaux, qu'un animal c'est de l'instinct alors qu'un homme c'est de l'analyse. Ou finalement, c'est gamken, c'est pour cette raison-là, nikraim amalachim b'shem chayot ou behemot. C'est pour cette raison-là que très souvent, surtout dans le nar, quand on nous parle des malachim, on les compare souvent à des animaux sauvages, d'accord, et à des animaux domestiques. Très souvent. Que dire-t-il? Comme c'est écrit. D'accord? On attaque directement. C'est écrit dans la névoie de Yéhezkel. Le prophète Ézéchiel, il a fait une prophétie dans laquelle il raconte comment ça se passe en haut. Enfin, pour nous, il ne nous a pas tellement changé. Parce qu'on a l'impression qu'on est dans un zoo quand on lit ce qu'il raconte. D'accord? Mais c'est une haftara qui est très spéciale. C'est une haftara qu'on lit le premier jour de Shavuot. D'accord? Et c'est une haftara qu'on dit que c'est pas n'importe qui peut la lire. Et c'est une haftara aussi sur laquelle c'est écrit dans le Shulchan Aruch que En Dorshim. C'est-à-dire c'est une haftara qu'il y avait des communautés dans lesquelles on avait l'habitude tous les Shabbat après-midi ou tous les Yom Tov après-midi de commenter l'haftara. Il y a une halakha que sur cette haftara on ne la commente pas. Celui qui l'a compris, il a compris. Celui qui l'a pas compris, il a pas compris. Je sais pas, moi j'ai déjà essayé de voir la traduction. Honnêtement, on comprend pas grand-chose. On parle des animaux, des taureaux, des lions. On comprend rien du tout. Il y a du... En vérité, dedans se trouve tout le...
Donc on parle des anges.
On parle des anges. Alors, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit là-bas, qu'il est dit comme c'est écrit, « Ufne arye el ayamin, le visage du lion. Le visage du lion est vers la droite, gomer, etc. Ufne shor measmol. Et le visage du taureau, du bœuf, se trouve measmol de la gauche. » Bien entendu, le prophète Ézéchiel n'est pas venu ici pour nous parler d'un taureau et d'un bœuf physique, d'accord, parce que c'est pas de ça qu'on parle. Donc, on se pose la question, pourquoi les anges sont comparés aux animaux? Nous, dans notre esprit, quand on compare quelqu'un à un animal, quand je lui dis espèce de bœuf, espèce d'âne, c'est pour le rabaisser.
Bien sûr.
D'accord? Donc, quand on parle des anges, on sera attendu à ce qu'on les compare, je sais pas, à d'autres choses, mais pas des animaux. Un animal pour nous, c'est rabaissant. Et pourtant, on voit que très souvent, surtout dans le nar, les malachim sont comparés à des anges. Pourquoi? Quel rapport? Alors, il explique ici. D'après le concept qu'on a expliqué à la fin du chapitre 38, on comprend. Les fiches et inam baleprira, puisque les anges n'ont pas le libre arbitre. Sur ce point-là, les anges sont comme les animaux. Les anges n'ont pas le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Ils ne peuvent pas choisir, par exemple, entre aimer et craindre Dieu, comme il va expliquer par la suite. Un ange que Dieu l'a défini, programmé, un ange qui est préprogrammé. Par exemple, l'ange Gabriel, il est préprogrammé pour être Gvoura, sévérité. D'accord? Crainte de Dieu. Il ne peut pas venir maintenant et dire, moi j'ai décidé maintenant, j'ai envie d'aimer Dieu. Il n'y a pas. Ton job, c'est le contraire. Il ne peut pas changer. Il est préprogrammé. C'est comme un ordinateur. Préprogrammé comme ça. Il n'y a que Dieu qui peut le changer. Toi, tu ne peux pas le changer. Ils n'ont pas de libre arbitre. Ve'ir'atam ve'avatam. Leur amour et leur crainte. Bon, après, on va rentrer dans les détails, un peu plus dans les détails. On va expliquer que quand on parle d'amour et de crainte, après, amour et crainte, c'est un grand mot, d'accord? Parce que dans l'amour et dans la crainte, c'est le côté positif et le côté négatif. Mais le côté positif qu'ils ont et le côté négatif qu'ils ont, it'laem, est naturel chez eux. Que Moshe Katou ve'rayamemna. Comme c'est écrit dans Raya Memena. Raya Memena, c'est une partie, vous savez que le Zohar est découpé en parties, et la partie qui est autour de la parasha de Pinchas s'appelle la partie Raya Memena. Littéralement, c'est-à-dire le berger fidèle. Bon, ça ne nous avance pas grand-chose. Ça parle de Moshe Rabbeinu. Ça parle de la qualité de Moshe Rabbeinu. Donc, dans la partie Raya Memena, parasha de Pinchas, qu'est-ce qu'il explique là-bas? Il explique là-bas le concept qu'on explique ici. Il explique là-bas comment un ange qui aime et qui craint Kadosh Baruch Hu, il ne le fait pas parce qu'il a réfléchi et il est arrivé à la conclusion qu'il devait aimer ou il devait craindre Dieu. Non. Il est né comme ça. Il est né préprogrammé. Il aime Dieu. Sans arrêt. C'est comme ça. Velachen, c'est pour ça. Donc, avec ça, on comprend. D'accord? Avec ça, on comprend que si on s'arrête sur ce côté-là des anges, les anges sont comme des animaux. Parce que chez les animaux aussi, c'est instinctif. On a expliqué que chez un animal aussi, quand un animal dévore, quand un animal aime, quand un animal n'aime pas, c'est instinctif. C'est pas quelque chose auquel il a réfléchi. Il naît comme ça et il meurt comme ça. Il change pas. D'accord? L'ange est aussi comme ça.
Il y a des dérapages.
Il y a des?
Dérapages.
Chez l'ange.
Ah.
Aussi, chez l'ange aussi.
Chez l'ange aussi.
Oui. Pourquoi? Alors, qu'est-ce que vous entendez par dérapage?
Ah, c'est marqué. Ce qui était incontestable peut être contesté. De façon très exceptionnelle.
C'est-à-dire
bah, ça fait dans Bereshit, par exemple, les anges ils sont descendus, ils sont
mariés. Non, je parle des animaux.
Ah, on peut imaginer, voilà, un animal, il n'est pas censé attaquer un homme, il va l'attaquer.
Ah, on avait vu dans le Tanya, ça, pourquoi?
Ah, attendez, ça veut dire quoi, il n'est pas censé attaquer un homme?
C'est dans son instinct, il n'est pas programmé pour dans l'instinct d'un animal.
Oui,
c'est
oui,
pas,
oui.
Pas. Attends, pas. Nous, on connaît les animaux, ils sont étudiés depuis... l'animal, il va... Et, parce qu'on dit il attrape la rage, par exemple, ou parce que il a été particulièrement affamé pour nous, il peut changer son instinct.
Oui, non, ça veut dire qu'il peut avoir dans son instinct un mode affamé dans lequel il fait n'importe quoi, c'est possible ça.
Oui.
C'est pas, ça veut dire que c'est pas, l'animal n'a pas le concept de l'analyse. L'analyse, il n'a pas. Analyse, réflexion, créer un sentiment, il n'a pas. Maintenant, peut-être qu'il a des modes chez lui. Il a des modes, qu'un mode, quand il est affamé, c'est comme un ordinateur, d'accord? Dès qu'il chauffe trop, le ventilateur doit s'allumer, c'est comme ça. Dès que le CPU, l'ordinateur, il monte à 100%, le ventilateur doit s'allumer, obligé. Comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas forcément une analyse, ça peut être aussi un instinct.
Bon.
Bon, on va parler des malachim, parce que, par contre, sur les malachim, on a des exceptions.
Oui, ouais. Mais sur les animaux, on avait vu dans le Tania précédemment, que pourquoi alors que l'animal... Ou dans le Tania, oui.
Ouais.
On avait vu précédemment que, contrairement à... Des fois, on voit que des animaux attaquent des hommes, et on avait donné l'explication dans le Tania. C'est parce que, quand l'animal, il voit l'homme, il voit pas un homme, il voit un animal. Quand l'homme, il se comporte mal, il se comporte comme un animal, l'animal, quand il le voit, il ne voit pas un homme, il voit un animal, donc c'est pour ça qu'il attaque. Tu te rappelles?
Alors. Oui, bon, non, oui. On n'avait pas dit dans le Tania, je l'avais expliqué alors, oui, d'accord, alors.
On n'a pas eu dans le Tania.
Ça ne change pas. Ça,
c'est
pas...
Oui, c'est pourquoi il y a des animaux.
C'est toujours pas de l'analyse.
Il change pas son mode dans ce cas-là.
C'est un instinct. L'instinct qu'il a, dès que je vois un animal, j'attaque, je vois un homme, je ne dois pas attaquer.
Non, il voit un animal, il attaque, il voit un animal, il attaque.
Voilà.
L'homme, quand il se comporte comme un animal, l'animal voit
mais
l'animal.
Un instinct, ça veut pas dire que. Un instinct, ça veut dire que c'est un instinct. Je lui dis que je vois un animal, j'attaque. Donc si je vois quelque chose qui me paraît comme un animal, j'attaque. C'est programmé.
Oui.
C'est comme un ordinateur. Voilà, je pense que le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est un ordinateur.
Voilà. Et les anges alors?
Ah. Alors les anges, a priori, c'est comme des ordinateurs. C'est programmé. A priori.
C'est un Néphilim.
Quand? Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Velachen, c'est pour ça. Ma'alat et tzadikim de la même. C'est pour ça que les tzadikim dépassent les anges. Même si a priori, à première vue, quand on se pose la question qui est plus haut entre les malachim et les anges, qu'est-ce qu'on va répondre? C'est les anges. Parce que les anges, ils n'ont pas de corps. Le corps, c'est un frein, c'est une limite. Donc si le malach, il a tout ce que le tzadik a, sans le frein du corps, quand le corps, c'est un frein. Donc le malheur devrait être plus haut. Et pourtant, qu'est-ce qu'on dit? Ce qui explique dans Raya Memana, dans le Zohar là-bas, il dit que les tzadikim sont plus forts que les malachim, sont plus hauts que les malachim. Pourquoi? Alors on va commencer à entrer dans la Kabbalah. Qui m'adore, Neshamot et tzadikim, ou Beolam Abria. Voilà, vous êtes prévenus. Parce qu'il dit comme ça, il dit m'adore Neshamot et tzadikim. L'endroit et le niveau des tzadikim, ou Beolam Abria. Se trouve dans le monde de Bria. Je vais expliquer tout de suite ce que c'est. Ou Mador Amalachim Bolam Ayetzira. Alors que l'habitation, on va dire l'endroit, le lieu de résidence des Malachim, se trouve dans le monde de Yetzira.
En dessous.
Alors, c'est quoi ce concept-là de Bria Yetzira? Le concept de Atzilut Bria Yetzira Asiya, c'est un concept qui est ramené plusieurs fois dans le Zohar et qui est ramené dans la majorité des écrits de pensée juive aujourd'hui. Quand je cite Maharal de Prague, enfin, c'est un concept qui est très connu. Le concept de Atzilut Bria Yetzira Asiya, on les appelle quatre mondes, d'accord? Ces quatre mondes, ça veut dire ces quatre étapes pour transformer du spirituel en matériel. C'est ça le concept de Atzilut Bria Yetzira Asiya. Alors c'est quoi ces quatre étapes? Atzilut, c'est la première étape dans laquelle c'est pratiquement, il n'y a pas du tout de matériel, d'accord? Seulement c'est là qu'on commence à voir la possibilité du matériel. Pour donner un exemple, c'est comme la chorma chez l'homme. Vous vous rappelez, l'étape chorma, c'est le flash. C'est-à-dire, c'est quand j'ai pas encore l'idée, j'ai pas développé, j'ai pas de sentiment, j'ai rien du tout, mais j'ai un flash. C'est-à-dire, le flash a un potentiel. Ça, c'est le niveau de Hatsilut. Le niveau de Bria, c'est le niveau juste en dessous. C'est là, c'est quand ça commence à prendre forme. Mais ça commence à prendre forme, mais pas dans les sentiments. Yetira, c'est quand ça passe dans les sentiments, donc ça devient de l'instinct. Et Asiya, c'est quand c'est complètement de l'action. C'est-à-dire, c'est quand c'est pas seulement un sentiment, c'est le sentiment qui a pris pas, c'est le sentiment qui est devenu action. Donc, Atzilut Bria Yetzira Asiya, on voit ça très souvent dans les textes. Et c'est très difficile à définir parce que c'est pas forcément des mondes définis. C'est des phases, c'est des modes. C'est des modes qu'on peut retrouver dans chaque chose. Je me rappelle une fois, un rabbin nous a donné l'exemple à l'Eshiva. Il nous a dit, si je prends par exemple, si je prends la photo de ces deux tables. Enfin, je prends la photo de cette table et cette table. Bon. Si je veux regarder la photo, je vais dire cette table est à la droite ou elle est à gauche. Cette table est à droite, cette table est à gauche. Bien. Si maintenant je prends la photo que de cette table, encore que de cette table, je dis cette partie de la table, elle est à droite ou elle est à gauche? On va dire non, elle est à gauche. Mais tu veux me dire elle est à droite? On a souvent des contradictions comme ça dans les textes. Là, regarde bien, parce que c'est ça le problème. On a souvent, on a souvent des exemples comme ça dans la Kabbalah et dans les textes de pensée juive, dans lesquels on a l'impression que c'est contradictoire. Une fois sur la même chose, une fois tu me dis que c'est Atzilut, une fois tu me dis que c'est Brian, une fois tu me dis que c'est Yitzhak, une fois tu me dis que c'est Asiya. Et la question est, tout dépend comment on prend la photo. Parce que Atzilut, Brian, Yitzhak, Asiya, c'est pas quelque chose de défini. C'est des phases, c'est des modes. D'accord. Donc comme l'exemple de la photo. Dans la photo, ça peut paraître une fois à gauche, une fois ça peut paraître à droite. Ça dépend comment tu prends ta photo. Bon. Alors, maintenant, on va retourner aux tzadikim et aux anges. Les tzadikim, eux, ils sont dans le monde de Bria. Le monde de Bria, ça veut dire quoi? Ils ne sont pas dans le monde de Hatzilut. On expliquera après c'est quoi le monde d'Hatzilut. On expliquera qu'il y a certains moments dans lesquels tout juif, tzadik ou pas tzadik, touche au monde de Hatzilut. Par exemple, quand on fait l'Amida. Le moment de l'Amida. Au moment de l'Amida, on dit qu'à ce moment-là, on touche au monde d'Hatzilut.
Ouais,
d'accord? Bon. Mais le tzadik.
C'est pour ça qu'on pense à des trucs très matériels.
Voilà. Bah, la Neshama, à ce moment-là,
c'est
le Sahara qui flaire que c'est très chaud.
Non, mais le jet, il est important. Hein. Mm-hmm. Ah, oui. Si on est à Tzilut et on pense où est-ce qu'on a mis les clés de la voiture.
Et aussi, on expliquera aussi, par exemple, le moment de Shabbat, Yom Tov, c'est quoi le concept de la Neshama supplémentaire. Bon, ça, on expliquera. Ça, c'est le concept de Tzilut. Mais de manière générale, dans notre vie, on ne connaît pas le monde d'Atzilut. Dans le monde d'Atzilut, ça veut dire que je vis d'une manière entièrement spirituelle. Je ne sens pas mon matériel, je sens que mon spirituel. Ça, on l'a pas. On sent notre côté matériel. La majorité, 99% des Neshamot, sont du monde de Asiya.
Je confirme.
Ça veut dire qu'on sent notre matériel, à part Yaakov peut-être.
Hein, il a dit je confirme. Pour une fois, il a été anav. Il n'a pas voulu dire qu'il était vraiment.
Donc la majorité des Neshamot, sentent que leur matériel, ne sentent pas leur spirituel. À part à certains moments, peut-être et encore.
Bon, mon privilège.
Les tzadikim, après on aura les grands tzadikim. Bon, c'est ce qui fait de l'or aussi. Hein, les...
Je connaissais Benoni et tzadikim, mais il y a grands tzadikim.
Les grands tzadikim.
Parfait. Déjà, on croyait qu'on avait le top, le grand tzadikim. Non, il y a encore grands.
Les tzadikim, eux, se trouvent dans le monde de Bria. Ça veut dire quoi, se trouvent dans le monde de Bria? C'est-à-dire, eux, ils se trouvent dans le monde de l'analyse. Rappelez-vous ce qu'on a dit. On a dit qu'il y a Chorma. Bon, ça, on touche pas encore pour l'instant. À Tzilut, on touche pas. Pour l'instant, on est à Bria. Bria, c'est l'analyse. Eux, les tzadikim, ils sont dans le monde de l'analyse. C'est-à-dire qu'eux, ils ont la possibilité, pas seulement de sentir Dieu instinctivement, comme nous on peut le faire, mais ils ont la possibilité de comprendre. Ça, c'est le monde de Hatzilut. Alors que les anges...
C'est Bria.
Alors que les anges, eux, ils sont juste en dessous.
Yetzirah.
Ils sont Yetzirah. Yetzirah, c'est-à-dire qu'eux, ils rentrent déjà dans l'instinctif.
Dans le sentiment.
Dans le sentiment. Eux, ils n'ont pas la possibilité de voir...
Totalement abstrait. Immatériel.
Oui, bien sûr. Mais parce qu'un instinct, c'est pas forcément
non,
matériel.
Non, c'est que oui, on dit qu'on est dans le monde de la Yetzira.
Tzadikim.
Non, Bria.
Bria, Yetzira.
Donc Bria, c'est les Tzadikim.
Oui, les Neshamas de Tzadikim, oui.
Et Yetzira, c'est les Malachim.
Oui.
Et donc, Yetzira...
Deux secondes, s'il vous plaît.
Attends, je vais me poser. Allez, très bien.